la première.
22h, 23h.
Oui.
Par oui dire.
Oui, oui.
Pascal Tison.
Tra le strade saracene, mille chiese d'altri tempi, ci si incontra tanta gente, non per vivere per niente.
Dimmi.
C'est un art.
Par où dire? Dès le premier soir, et sans doute l'ai-je écrit dans l'une de mes chroniques, je m'étais fait le serment de ne jamais oublier les morts. J'y voyais l'objet secret de la justice, peut-être même sa véritable nature. Non seulement juger les fautes, redresser les torts, mais se mettre à la place des autres. Les accusés, certes, les survivants, bien sûr, mais aussi les disparus. Et cela si profondément, qu'à travers la répétition des témoignages, on entendait battre leur cœur et qu'on retrouvait leur voix. C'était ça, penser aux morts, faire acte de justesse, au point de leur accorder l'existence que le crime leur avait ôtée. Au fond, c'était une façon de prendre le deuil, à la manière dont on se met à la place de quelqu'un qui a perdu un être aimé, se mesure le progrès de la justice en soi. Peut-être estimerez-vous que c'est une chose impossible, une présomption démente, disait Hegel. Mais c'est aussi le commencement de l'éthique, soutenir le deuil des autres. Écouter les morts, cette éthique du silence s'appelle la littérature. Notre solitude, Yannick Hennel.
La langue, c'est un corps habité par du temps.
C'est la deuxième fois que Yannick Hennel utilise le mot « solitude » pour le titre d'un de ses livres. Il y avait déjà eu « La solitude Caravage » et là, il vient de publier « Notre solitude » aux éditions « Les Échappées ». Yannick Hennel a été chroniqueur pour Charlie Hebdo au procès des attentats de Charlie Hebdo il y a tout juste un an. Et « Notre solitude » est le ressenti intime de cette expérience où il parle de l'innocence avec l'impression d'avoir un couteau sur la gorge.
Mais il se trouve que dans les villes antiques, on accordait une importance première à un lieu sans utilité a priori, donc à un lieu sacré, un lieu séparé, qu'on appelait le mundum. Le mundum, c'était un trou au milieu de la ville, d'où on avait décrété que les vivants et les morts se rencontraient là.
Yannick Hennel.
Alors, après, c'est devenu des temples, tout ça, des églises. Le mundum, ça m'a frappé au bout de quelques semaines, à force d'entendre des témoignages, je me disais, mais ça y est, c'est là. Quand Zari Siboni parlait du fait qu'elle descendait dans l'hypercachère à la demande d'Amidi Koulibaly, qu'elle descendait parce que Koulibaly voulait savoir s'il y avait des gens qui s'étaient cachés en bas. Évidemment qu'il y en avait, mais elle remontait en disant, non, il n'y a personne, alors qu'ils étaient dans les chambres frigorifiques. Quand elle ne cessait donc d'en parler, elle disait « ceux d'en bas, ceux d'en haut ». C'était Perséphone, en fait. Elle allait chez Hadès, puis elle remontait à la lumière. Enfin, c'était extraordinaire de voir que finalement, enfin, je comprenais en l'entendant, à la manière de s'exprimer, comment elle avait été protégée par elle-même, tout en étant sans cesse aux prises avec un assassin, dont je pense qu'il était vraiment, clairement démoniaque, parce que tous les témoignages convergent sur ses yeux révulsés, sur quelque chose. Il était sous une emprise. C'est le crime incarné à Mehdi Coulibaly. Et donc elle, qui était à quelques centimètres de lui, qui était la femme qui a le plus parlé à Coulibaly, lui demandait de faire des choses pour lui. Et de temps en temps, il se réveillait de sa somnambulie criminelle et il lui disait « T'es pas encore morte, toi ?» C'était effrayant ce qu'elle nous disait. Et je me disais, voilà, il y a quelque chose qui relève dans son itinéraire à elle, ou de sa position dans cet espace qu'elle décrivait pendant 4 heures, d'une autre position qui est dans l'esprit, en fait. Elle était celle qui, si je me permettais d'employer des mots comme ça, chrétien, catholique, je parlerais de la grâce, il y avait quelque chose en elle qui a empêché le crime d'agir sur elle. Il lui a tiré dessus, il l'a manqué. Quand même, un homme qui a tué, c'était le seul armé. Il a tué qui il voulait, il lui a tiré dessus, elle n'est pas morte. Il y a parfois des choses mystérieuses comme ça, des gens, je parlais de faiblesse, sa faiblesse et cette femme-là faisait que, je veux dire, elle était désarmée, faisait qu'elle, la mort n'a rien pu faire contre elle. Elle a été celle qui a vaincu Coulibaly, il faut bien le dire. Et voilà, quand elle est venue parler dans ce lieu-là, à la barre, j'ai vraiment pensé ça, que c'était le mundus, le monde, enfin le nombril du monde, celui où les morts et les vivants parlent, le lieu de l'impossible, voilà, on dirait ça, l'impossible.
Vous en faites un aussi, à votre manière et à votre mesure, de petit mundus. Quand vous êtes dans le jardin, vous faites ce rituel, ça passe aussi par un trou, ça passe par Kafka, et il faut l'avaler, ce Kafka.
Ça, c'est les arcanes de la littérature, enfin, qu'on se fabrique soi-même. C'est vrai que je raconte ça dans le livre, c'est peut-être le moment, je sais pas si c'est léger, je crois pas que ce soit léger, mais peut-être un peu plus souriant.
C'est moi, le moment d'une bascule aussi.
Oui. C'est-à-dire que pour me préparer à ce procès, et aussi parce que je n'y arrivais pas, tout simplement.
On part d'une impuissance.
Ouais. Je suis parti de la feuille blanche, ça ne m'était pas arrivé depuis 25 ans, enfin, d'être paralysé, d'avoir peur de dire des conneries, tout simplement. J'utilise le mot à dessein, enfin, j'avais peur d'être con, enfin, de ne pas être à la hauteur, de décevoir mes amis de Charlie Hebdo, mais aussi de rester bien en deçà de toute cette humanité, enfin, de ne pas trouver les mots. Et donc... J'ai procédé à toutes sortes de petits rituels sur moi-même. Je sais pas vous, mais moi, quand j'écris, quand je vais me mettre à faire des choses qui m'importent, ou alors dans l'amour aussi, j'ai des petites choses spirituelles, entre guillemets, un peu comiques parfois. Et là, c'est une scène assez longue, enfin, que j'ai décrite, et puis c'est pas venu comme ça. Mais il se trouve, je me suis retrouvé dans mon jardin, effectivement, en banlieue parisienne. Au plus fort de la nuit, je ne sais pas, à 3 heures, moi, il faisait assez beau encore, c'était en septembre. Et comme j'avais repris cette page du procès de Kafka, un peu par désespoir, je ne savais plus trop quoi faire, je n'arrivais pas à écrire, j'ai ouvert des livres en fait. Et il y a une page qui s'appelle « Devant la loi », qui raconte notre position allégorique, disons, timide et impuissante face aux portes de la loi qu'on croit fermées alors qu'elles sont ouvertes, et qu'il suffirait qu'on y entre, mais on n'y entre pas. Et cette petite page, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais c'était pour créer des protections. Enfin, j'en ai fait une boule comme ça. Il y avait mon chat à côté de moi, je m'en souviens, dans la nuit. Donc je l'ai écrasé, j'en ai fait une petite boule, je l'ai avalé. J'ai mangé Kafka. Je me suis injecté, si je puis dire, une page de Kafka. Je peux vous assurer que ça avait du mal à passer. Et heureusement, j'avais un peu d'eau, j'avais du lait, j'avais du vin. Et j'ai fait comme dans Ulysse, enfin comme dans l'Odyssée, vous savez, quand il fait venir les morts, enfin il fait ça, il creuse un trou. C'est Circé qui lui a dit de faire ça, c'est de la magie. Enfin, il creuse un trou et justement il met du lait, du vin, de l'eau. Alors il y a encore d'autres choses, mais moi je n'allais pas sacrifier un mouton quand même, ni même mon chat qui me regardait le pauvre en se disant il ne va peut-être pas aller jusqu'au bout quand même. Mais je ne pense pas qu'il ait lu l'Odyssée, mon chat. Quoique. Et bon, je me suis contenté d'avaler la boulette de Kafka. Et alors, bon, ben ça, ce sont l'autosuggestion merveilleuse des humains, enfin, en tous les cas de la mienne, c'est que, ben voilà, après, j'étais armé, enfin, voilà, ou alors suffisamment désarmé, enfin, et j'ai pu écrire. Le langage est déjà un rituel. Quand on aime la danse, on sait ça, enfin, la danse contemporaine ou la danse la plus ancienne, tout l'espace est métaphorique, celui où notre corps se déploie, tout est signe. Et je pense que c'est la moindre des choses, enfin, quand on est un écrivain ou un usager de la parole, comme nous tous, enfin, ou du langage, c'est la moindre des choses que de s'approprier un cadastre et de le destiner, enfin, de le consacrer, de le, je sais pas moi, comme quelqu'un qui balaye sa cour, enfin, vous voyez, comme dans le château de Kafka, il y a un moment on balaye dans la neige. Enfin, j'ai senti qu'il fallait qu'il y ait du sauf, il fallait que tout soit, c'est pas seulement que ce soit propre, mais qu'il y ait quelque chose dont j'ai pris soin au préalable pour que ça puisse advenir. Et donc ça a pris cette forme de petite comédie intime entre moi et moi, enfin, et mon chat d'ailleurs.
Témoin.
Témoin, voilà, il y a toujours un témoin. Mais alors celui-ci, c'est un témoin qui ne pourra rien dire. Mais puisque je vous le dis de toute façon et que je l'ai écrit dans le livre, c'est comme si c'était mon chat qui avait, qui avait écrit le livre.
Il y a peut-être aussi une chose sur laquelle je voudrais revenir. On a beaucoup parlé de paroles, mais vous parlez beaucoup de la langue aussi dans votre texte, et de l'importance de la langue et de l'importance du soin qu'on lui accorde. On a un peu effleuré ce sujet-là, mais en parlant des accusés, certains n'ont plus de langue. Elle est tellement désarticulée qu'elle n'est plus.
Effectivement, quand je parlais de combat spirituel dont on sent la pesanteur dans des lieux comme celui-ci, c'était pas un combat des titans, c'est pas Dieu et les impies ou je ne sais quoi, c'est que ça se passe dans la parole. Il est clair et net, tous ceux qui ont assisté à ce procès en ont témoigné d'une manière ou d'une autre, avec leurs propres mots. Il est clair et net qu'il y a eu une souillure dans l'emploi du langage qui en disait long pour moi, enfin, parce que je pense qu'à la manière dont on établit un rapport avec la langue, ce signe notre rapport avec l'être, enfin, ce qui se passe d'aventureux, d'amoureux ou de maladif avec la langue pour nous, pour chacun d'entre nous, en dit long sur la manière dont on vit en fait. Et là, les accusés, la question pour moi c'était pas tellement de savoir s'ils étaient coupables ou innocents, c'était d'entendre la langue qui sortait de leur bouche, et j'entendais de manière crissante, enfin comme quelqu'un qui a mal aux oreilles, enfin une horrible musique. Quelque chose de l'ordre, oui, de la souillure. Et ça, c'était passionnant, parce que c'est pas le fait de pas être instruit, ou de mal parler, ou de je ne sais quoi, c'était pas ça, en fait. Certains parlaient plutôt bien, d'autres plutôt pas bien. Mais c'était que, et ça, on le sent tout le temps, enfin, tout le monde sait sentir ça pour soi. Il y avait à l'intérieur de la parole quelque chose de criard, de sale, et de, pour le coup, de mensonger. Par rapport à eux-mêmes, enfin, ils étaient, un psychanalyste sentirait ça tout de suite. Il y avait un désaccord, vous voyez, c'était le contraire d'un accord. C'était très frappant, enfin, aucun des accusés, peut-être un, Ramdani, mais qui était dans une forme de séduction, c'était quelqu'un qui avait épousé sa propre parole, mais dans l'entourloupe. Enfin, mais la plupart des autres, et j'étais, encore une fois, c'était la première fois que j'entendais ça, c'était des gens désaccordés et qui souffraient énormément parce qu'il y a une douleur à être comme ça, sans cesse entravé dans sa parole. Il n'avait pas de langue, voilà. Vous utilisiez le mot langue. Parce qu'après tout, même quelqu'un qui, encore une fois, qui a un usage très brutal de la parole, il peut avoir une langue. Moi, j'aime le rap, par exemple. Ça peut être très sophistiqué, ça peut être très brutal, mais c'est une forme de langue. Bon, c'est élaboré. Et là, c'était, oui, je trouve pas l'adjectif dissonant, criard. C'est pas tout ça, mais c'est encore autre chose. Bon, il y avait quelque chose là, en tous les cas, qui se situait dans une destruction, voilà, dans une destruction de toute langue. Alors pour un écrivain, c'était passionnant enfin, d'enregistrer ça. J'en parle, j'allais au tribunal, mais j'entendais ça depuis un autre tribunal, celui où on ne juge pas, qui était le mien, et où on entend des choses, on se dit « Oula, mais là, c'est des niveaux, des fréquences sonores qui racontaient autre chose. » Il y a un autre scénario que moi j'ai pris en note. Enfin, c'était pas seulement judiciaire, c'était linguistique. Et à l'inverse, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas, cette femme, encore une fois, Zahra Sibouni, qui vit à Jérusalem maintenant, parce que cette femme qui vivait en France, donc à Paris, n'a plus voulu quitter les morts de l'hypercachère, notamment les quatre personnes dont elle s'est sentie responsable. Enfin, c'était, enfin, responsable, pas coupable, mais elle a raconté très bien enfin, qu'il était hors de question qu'elle soit loin de ces gens qui étaient morts, qui étaient pendant 4 heures à ses pieds, en fait. Et elle les a accompagnés, alors personne ne lui demandait rien. Elle les a accompagnés à Jérusalem pour qu'ils soient ensevelis. Et elle est restée à Jérusalem. Et elle habite à Jérusalem maintenant. Alors cette femme, on entend bien, j'espère, dans ce que je viens de dire, qu'elle, elle était en liaison avec une langue qui n'était pas seulement la sienne, mais qui était tout simplement la langue des morts. Et qu'elle, justement, elle représentait sur ce théâtre où j'entendais des choses criardes, menaçantes, approximatives, mal fichues, destructives. Elle, au contraire, ne parlait pas de manière spécialement fluide. Enfin, c'était catastrophique aussi ce qu'elle disait. Enfin, c'était très terrible pour elle d'arriver à ajuster des phrases. Mais tout ce qu'elle disait était habité par quelqu'un. Et franchement, je le dis comme ça, sans vouloir faire de... Je ne sais pas quoi, je ne suis pas en train de faire bouger les tables. c'était vraiment habité par les morts, enfin, par le cœur, par la pensée des morts, par la pensée des autres. Donc c'est ça la langue pour moi, c'est pas du fignolage, c'est pas seulement les points-virgules, même si j'adore la scansion et le bruissement des points-virgules. La langue, c'est un corps habité par du temps. Il y a des gens qui ouvrent la bouche, même s'ils disent des choses banales, c'est merveilleux. On sent l'espace et le temps, on sent vibrer quelque chose. Et d'autres, ben voilà, je sais pas, c'est...
D'autres non,
voilà. Ben on sait tous ça, mais dans un tribunal, ça prend des dimensions dramatiques. Voilà. Et j'ai eu envie de rendre compte de ça, voilà, et de prendre mon temps là aussi pour dire ça, pour essayer de le dire le mieux possible, pour que ce soit partageable. Parce qu'à un moment, effectivement, je me suis dit que ça avait du sens d'être dans ce tribunal. C'était épouvantable comme expérience, c'était à endurer, pour mes proches aussi. Puis on s'est retrouvé sous protection policière parce que je me suis été menacé de mort puisque je faisais partie de... puisque j'écrivais pour Charlie Hebdo. Parce qu'à partir d'octobre, il y a eu des attentats pendant le procès. Vous savez que, il y a eu le professeur Samuel Paty qui a été tué. Il y a eu un attentat à l'ancienne adresse de Charlie Hebdo. Puis il y a eu l'attentat à Nice, c'est une cathédrale, je ne sais plus. Bon, toujours est-il que voilà, les circonstances devenaient également dramatiques pour ceux qui y assistaient. Et la vie devenait franchement difficile. Mais du coup, ce n'était pas seulement de ça dont je voulais parler. C'était que ça a quand même du sens, parce que j'aurais pu abandonner après tout, me dire, bon, bah écoutez, voilà, c'est trop pour moi. Mais ça m'a passionné, j'ai vu que ça avait du sens d'être là pour enregistrer ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire ce qui se joue sur le plan de la langue, ce qui se joue dans cet échange fondamental, qui change tout, qui est la vraie chose, à mon avis, et qui échappe au jugement du tribunal. On ne va pas vous foutre en prison pour toujours, parce que vous avez mal parlé. Mal vu, mal dit, comme dit Beckett. Oui. Mais il se trouve que la vérité, elle est quand même là, sur un autre plan. Mais c'est la vérité de soi à soi. Raskolnikov, dans sa prison, il a tué la vieille, il lui a pris son argent, mais il a acheté l'argent, il s'en fichait. Mais il continue son propre procès. Comme on le sait quand on a lu Crime et Châtiment, le châtiment vient de Raskolnikov. Et ça a à voir dans cette dimension-là de la langue, en fait, de celle avec laquelle on s'entretient soi-même. Et là, on ne peut pas se tromper soi-même. Donc pour moi, les accusés aussi, ils savaient dans quel degré d'infamie ils s'étaient mis. Certains, ce n'était pas très infâme, c'était trois fois rien, mais ils s'étaient quand même mis dans un truc pas possible. Et ils ne parlaient que de ça, c'était un monologue qui finalement ne s'adressait qu'à eux-mêmes.
Est-ce que maintenant vous avez écrit ce livre, il y a un peu de paix en vous? Est-ce qu'on peut tenter ce mot-là?
Alors ça dépend, oui. Je cherche l'apaisement. Je le cherchais déjà avant le procès. Je le cherche amoureusement, je le cherche en écrivant, en aimant, en buvant même, exagérément parfois. Je le cherche dans l'ivresse, je le cherche, quoi dire, dans des choses bêtes, dans la sieste, vous voyez, dans cette chose merveilleuse du début d'après-midi, dans le fait de parler, de me taire. Mais, il fallait bien que cette phrase finisse, je crois ne pas me tromper en disant que je le trouve rarement. C'est aussi parce que je sens bien et c'est le fait d'écrire qui m'a voué à ça. Je fais partie des intranquilles, comme dirait Pessoa. Enfin, tranquille, non, et même, j'aime pas la tranquillité. Quand je sens que j'atteins une forme d'apaisement, et c'est dommage pour moi, enfin, c'est trop bête, mais je sens que je fuis cet apaisement parce que j'ai l'impression que je vais m'endormir, en fait. J'ai l'impression que je vais croupir dans un confort qui n'est pas mon lieu. Au fond, par le genre de livre que j'écris, le genre de personnes que je fréquente, le genre d'événements qui me plaît, comme ce procès, le fait d'écrire aussi à Charlie Hebdo, parce qu'après tout, je pourrais rester chez moi. J'aurais pas d'ennui, on me mettrait pas sur une liste, j'aurais pas de menace de mort. Enfin, là, c'était un cas extrême. Mais je vois bien que c'est ça que j'aime, en fait, d'être inapaisé. Voilà, je dirais ça, je suis inapaisé.
Inapaisable.
Et inapaisable, peut-être aussi, oui.
Vous racontez d'ailleurs ce moment où Marie Darrieussecq vous appelle pour vous proposer d'écrire à Charlie Hebdo, c'est après les attentats. Vous acceptez, vous nous dites, mais il y en a beaucoup qui ont refusé.
Oui, ça, si on fait un retour en arrière, effectivement, on est en janvier 2015, justement, je crois 2 semaines après les attentats. Et effectivement, ma grande amie Marie Darrieussecq, m'avait appelé, je m'en souviens encore. J'ai dit oui tout de suite. Je lui ai dit, tu sais, je te dis oui, bon, parce que j'ai senti que c'était la chose à faire, en fait. C'était quand même, vous vous souvenez, enfin, c'était stupéfiant, c'était sidérant. On n'avait pas vu le pire encore. Mais je ne sais pas si c'est mesurable, il n'y a pas pire ou moins pire que le Bataclan, il y a eu plus de morts, mais je ne sais pas, on peut, c'est idiot de mesurer ou comparer. Mais il se trouve qu'en janvier 2015, ça a été sidérant comme événement, voilà. Et quand elle m'a dit, tu veux écrire à Charlie Hebdo, parce que moi, ça y est, je vais écrire. Il y a eu 12 morts de la rédaction, ils cherchent des plumes. J'ai dit oui tout de suite. Et je lui ai dit, tu sais, au fond, Charlie Hebdo, moi, je connais pas bien. Enfin, c'est pas tellement mon truc. Leur anarchie me plaît bien, mais je suis même pas sûr qu'ils soient encore anarchistes. Je les situais pas. Et puis, la culture du dessin satirique, c'est pas tellement ma tradition esthétique personnelle. Mais j'ai dit oui. Et là, on a bien rigolé parce qu'elle m'a dit « Ouf, parce que tu sais, j'ai été mandaté par eux, mais à Paris, je viens d'appeler pendant 2 jours tous les écrivains, tout le monde a refusé. » Et là, mais je vous dirai pas qui, et là, elle a dit les noms. Moi, je me suis permis de rigoler parce que après tout, puisqu'on avait, je dis pas qu'on avait du courage d'aller écrire, mais après tout, on aurait pu ne rien faire. Bah, ce jour-là, je me suis dit, c'est pas rien, en fait. Voilà. C'était un acte qu'on faisait de solidarité, et plus que ça, parce que ça a été une immense aventure, et vous voyez, 7 ans après, j'y suis encore, et mes liens avec Charlie Hebdo se sont peu à peu serrés, jusqu'à l'amitié, enfin. Jusqu'à la tendresse, enfin. Et puis, c'est pas que je fasse partie de cette rédaction, parce que je n'y vais pas. Là-bas, je suis pas un journaliste, c'est pas mon truc d'assister à des conseils de rédaction, à chercher des idées. Moi, je fais une chronique toutes les semaines, mais il se trouve que dès ce soir-là, quand Marie Darrieussecq m'a appelé, je le dis dans le livre, je crois, au fond, quelque chose s'est scellé d'une forme de destin pour moi. Je savais pas pendant des années quelle place j'occupais auprès de Charlie Hebdo. Parfois, je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, franchement qu'est-ce que je leur apporte? Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Enfin, on n'est pas. Même si je les aime bien, enfin. Et beaucoup même. Et puis un jour, il y a eu le procès. Et Rhys, donc 6 ans après, un soir là aussi, m'appelle et me propose d'être celui parmi Charlie Hebdo qui suivrait le procès et qui témoignerait pour les autres. Parce qu'il me disait, mais nous, on peut pas être partie civile, victime et commentateur de son propre procès, ça va pas. Et là, j'ai su pourquoi j'étais à Charlie Hebdo. J'ai su que depuis le début, c'était écrit en fait, vous voyez. Je le dis comme ça parce que c'est joli de le dire comme ça. Enfin, j'avais trouvé ma place, en fait. Il y a Robert McLiam Wilson, qui est un grand écrivain irlandais qui écrit en français. Marie Darrieussecq est partie au bout de quelques années. Et puis finalement, il y a Philippe Lançon, évidemment, depuis toujours. Moi, je suis toujours là, quoi. J'ai su que la nécessité venait du fait qu'un jour, il allait falloir trouver quelqu'un qui se rendent disponibles intégralement, 8 heures par jour, plus 3 heures d'écriture dans la nuit pendant 54 jours, et c'était moi.
Que cherche-t-on à voir? À quelle nudité désirons-nous accéder? Ce pays chatoyant, où l'on capture des éclairs érotiques, est aussi celui où la lumière se révèle pénétrable, comme l'âme. Dans la peinture, aucun objet convoité ne se dérobe. Au contraire, il se donne en un instant, réputé insaisissable, qui prélude à la consécration. Des figures peintes, toutes féminines, répondent à mon désir par l'effusion qu'elles préparent. Il n'y a pas de voile. Tout est ici exposé. Et si nous regardons bien, les portes nous seront ouvertes. Je plongeais ainsi dans la peinture comme on pénètre dans une orgie. Avec l'innocence de celui qui veut tout, Eros et la grâce, la jouissance et le sacré. On se jette dans les tableaux, les uns après les autres et tous en même temps. On devient insatiable, et comme il n'y a ni commencement ni fin, on se trouve à chaque instant récompensé. Si dans ce tumulte écarlate, les figures violentes de Poussin, Delacroix, Van Gogh me parlaient avec tant de clarté, c'est parce que j'en attendais une transparence qu'on ne demande qu'à l'amour. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de l'autre livre? Parce que vous avez quand même écrit aussi deux livres magnifiques sur la peinture, celui qui vient de sortir, et puis celui aussi sur le Caravage, et aussi le mot solitude, qui est dans le titre.
Oui. C'est vrai que là, on vient de parler du livre qui s'appelle Notre solitude, mais j'ai déjà employé bien trop de fois sans doute ce mot, et notamment dans le titre d'un livre sur le Caravage, donc qui est sorti il y a quelques années, La solitude Caravage. La peinture, c'est devenu au fil du temps une de mes passions, elle aussi inapaisable. C'est peut-être l'autre nom de l'inapaisable en moi, c'est d'être requis par de la peinture. Avec le temps, je suis un fanatique de cinéma, de jazz, de rock, d'opéra, bon, de littérature principalement, mais finalement c'est la peinture qui tient le plus, qui me requiert le plus. Et je passe mon temps à aller en voir, et à ouvrir aussi des catalogues, mais bon, c'est pas la même chose. Je passe mon temps à y penser et surtout, je passe presque tout mon temps à essayer de trouver les mots pour dire ce qui échappe aux mots, puisque la peinture, comme l'a dit Poussin, est chose muette. Et il se trouve qu'après avoir terminé le livre sur le Caravage, qui m'avait donné un tel plaisir que ça en avait été une aventure au fond, d'aller revoir tous les tableaux du Caravage un peu partout en Europe, j'ai écrit presque un codicille, un petit supplément, assez vite, parce que je me suis souvenu qu'il m'était arrivé une autre aventure face à la peinture. Et moi, c'est ça que j'aime vivre et raconter. C'est pas seulement faire de l'histoire de l'art. Les vrais historiens d'art le font admirablement. Moi, je me substitue pas à eux. Mais j'essaye d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut dire face à un tableau. C'est-à-dire, avec mes moyens littéraires, d'ajuster, nuancer, trouver encore d'autres mots. Et puis, je raconte ce qui se passe émotivement entre une œuvre et mon cœur, en fait, et mon corps. Et il m'était arrivé autre chose. Il n'y avait pas qu'avec le Caravage que c'était arrivé si profondément. C'était vers 18-19 ans, je ne me souviens plus très bien, c'est dit dans ce petit livre qui s'appelle « Le désir comme aventure », minuscule livre, qui est paru directement en poche, d'ailleurs. « Le désir comme aventure », ça raconte une histoire vraie, comme on dit, de mon adolescence, où c'est l'un de mes premiers séjours à Paris, parce que j'étais rennais, je suis né à Rennes, j'ai fait mes études là-bas à Rennes. Et en venant à Paris pour y acheter des disques punk, figurez-vous, parce qu'il se trouvait qu'il y avait un très bon disquaire qui s'appelait New Rose, disquaire très spécialisé dans les vinyles, quasiment autoproduits, on dirait ça aujourd'hui. Et donc il y avait des gens qui n'étaient distribués, enregistrés que chez New Rose, et c'était à Paris. Donc de temps en temps, quand j'avais un peu d'argent, je venais juste pour acheter des disques. Et durant ce week-end-là, je suis allé au Louvre tout seul, bon. Et je suis tombé en arrêt devant un tableau de Delacroix qui s'appelle La mort de Sardanapale. Mais ça n'a pas été un intérêt culturel ou alors comme devant une très grande chose qu'on admire, qu'on trouve magnifique et dont on nous a déjà parlé. Non, ça a été un fracassement. Enfin, j'étais tétanisé par ce tableau. Et j'ai essayé de rendre compte, donc, bien des années plus tard, dans ce petit texte, de ce qui a eu lieu, parce que j'en ai pas dormi de la nuit au sens strict. Enfin, c'est pas, là, je vous raconte pas d'histoire. J'ai tenu à l'époque dans mon carnet, j'ai noté ce qui m'arrivait, j'ai retrouvé ça, puisque j'ai plus de 50 ans, ça fait quoi, si je calcule, plus de 30 ans après. J'étais un peu sidéré en déchiffrant ce que j'avais décrit cette nuit-là. Et donc, j'y ai ajouté d'autres visions depuis de ce tableau. Comme vous le savez, ce tableau représente Sardanapal, donc un roi d'Assyrie.
Un suicide et un crime.
Oui, alors voilà, c'est très ambigu, parce qu'il est peint dans sa cour, sur son lit, qui est à la fois son trône et son lit de mort, puisque, étant assailli par ses ennemis, tout va être volé, pillé, incendié, et toutes les femmes ici vont être violées. Et donc il décrète la mise à mort de tout. C'est la politique de la terre brûlée. Il va tout incendier de son propre palais. Il va se laisser mourir à l'intérieur. Et au préalable, il fait tuer par sa garde tous ses esclaves et toutes les femmes de son harem. Et Delacroix peint ce moment inouï, à la fois de débauche. C'est une débauche de violence. Et il se trouve que Et Baudelaire, qui était fasciné par ce tableau, et par Delacroix à l'époque, il opposait à toutes sortes d'autres peintres, dont Ingres. Il y a un combat célèbre dans l'histoire des valeurs artistiques. Il se trouve que Baudelaire avait déjà vu, je crois un peu, on lit ça entre les lignes, il avait déjà vu quelque chose qui nous fait frissonner tous, mais parfois on ne trouve pas les mots pour le dire. C'est que, et là je m'en suis aperçu vraiment, en retravaillant, en allant voir le tableau plein de fois ces dernières années, ces derniers mois, c'est que les femmes nues qui sont en train de se faire égorger sont peintes toutes dans des positions lascives, qui semblent dire, et il m'est arrivé de me cacher un peu les yeux pour ne regarder qu'elles, en enlevant toute la scène de crime autour. Et je me suis dit, mais elles sont en train de faire l'amour, enfin, qu'est-ce qui se passe? Alors on sait bien que Eros et Thanatos sont des liaisons très particulières. On sait bien que la volupté peut provenir d'un acte de violence ou de douceur. On sait bien que la mort et l'amour ont à voir. Mais quand même, c'était un peu gros, enfin, de vérifier que, en fait, ce qui m'avait fasciné à 19 ans, c'était pas seulement la violence criminelle qui s'abattait dans un lieu luxueux où toutes les richesses du monde semblaient comme une corne d'abondance couler, et que le sang venait parachever ça jusqu'à la perversion, au trouble. C'était pas vraiment ça qui m'avait excité. C'était très simplement qu'on y voyait les femmes les plus belles du monde dans des positions. Elles étaient en train d'être sacrifiées, ce qui était déjà bien fou et bien lourd à voir. Enfin, c'est vrai qu'en un sens, j'avais jamais vu ça à 19 ans. Mais c'est que j'avais vu autre chose. Et après, j'avais oublié. C'était qu'en fait, il y a un collage de la part de Delacroix. Les femmes qui sont en train d'être tuées, qui sont en train de produire un râle, en fait, viennent de scènes qu'il a écrites, hein, lapsus, qu'il a peintes toutes seules, qui sont des scènes érotiques, et qu'il a intégrées à ce massacre. Il y a à l'intérieur de ce massacre une vérité sous-jacente qui est celle du plaisir. Donc c'est un tableau sadique, totalement sadique, d'autant plus sadique qu'effectivement les victimes ont été prélevées sur une autre scène qui était une scène sexuelle. Et donc j'essaye de qualifier le trouble qu'on peut avoir face à ce tableau, parce que de fait il est quasiment sûr, je ne pense pas être le seul à avoir vu ça, enfin, il est quasiment sûr qu'on a là une juxtaposition de deux extrêmes, la violence et l'érotisme, en fait. Donc deux scènes en une. Et bon, voilà, je raconte ça à la première personne, c'est un tout petit livre d'une trentaine de pages, Le désir comme aventure. Regarder un tableau, ça peut nous mener très très loin, comme vous savez, enfin, pour peu qu'on le regarde avec des yeux désirants, qu'on se rende disponible, enfin, qu'on ne plaque pas inconsidérément sur ce tableau des choses. Et moi, j'en suis arrivé à ce que je viens de vous dire au bout de 30 ans, vous voyez. Donc, le désir comme aventure, ça prend du temps aussi. L'aventure est longue et lente et merveilleuse.
La fureur qui soulève le rideau de la tente où Judith s'est introduite avec sa servante pour y couper la tête de l'ennemi raconte un combat immémorial. Il faut, pour s'accorder à la vérité qui nous anime, liquider le monstre qui vous en interdit l'accès. J'appris que le Caravage avait d'abord peint Judith nue et que sa poitrine fut recouverte ensuite à la demande de son commanditaire. Ses seins étaient-ils si beaux qu'on fut obligé de les cacher ? Ou peut-être brouillait-il le message biblique en attirant l'attention sur les attraits irrésistibles d'une femme qui, avant tout, se sacrifiait en tuant pour son peuple. Je souriais. Le Caravage avait installé ici, comme partout dans ses tableaux, une dimension équivoque dans laquelle je prenais plaisir à évoluer librement. Et puis je l'avais toujours su. Si aux yeux du monde, Judith était habillée, moi, je la voyais nue. Et je ne pensais pas qu'à Judith. Durant toutes ces années, je contemplais les joues roses et dorées des madones de Bellini, les saintes aux mains pâles de Fra Angelico, les petits visages opalescents toujours au bord de s'éteindre, les paysannes de Corot, l'onctuosité fatale des courbes de la Marca Desnuda de Goya, les grandes chairs voluptueuses des lesbiennes de Courbet et la carnation démoniaque des nymphettes de Balthus, avec le même appétit. J'en tirais à la fois du feu et du lait, la dose de tendresse qui comble la chute dans l'existence et l'extase qui sans cesse nous fait renaître. Cette immense étendue charnelle en laquelle j'identifiais la peinture me prodiguait d'un même élan l'excitation et l'apaisement. J'étais passé maître dans l'art de discerner au premier coup d'œil, même à travers les touches les plus rageuses et les coloris les plus cinglants, une sorte de bonté. Et au cœur de cette bonté, un point vibrant qui donne accès à ce pays qui n'est pas tout à fait le nôtre, où l'amour est à la fois le royaume et la clé du royaume. J'avais lu dans l'Iliade qu'à un moment de la bataille de Troie, à ce point de saturation où la violence met tous les êtres en proie, où l'innocence et le massacre ne se distinguent plus, les dieux font l'amour. Héra parvient à détourner Zeus des combats. Le cœur ouvert par le désir le plus doux, il refuse de la suivre dans la chambre nuptiale, mais l'invite sur le sommet de l'Ida, là où le gazon, enveloppé d'une nuée d'or, est baigné de rosée. Des fleurs croissent dans cette prairie. Le safran, la jacinthe, la violette, la rose. C'est elles qui teignent les vêtements d'Aphrodite. Ainsi, les amants font-ils l'amour dans l'élément même qui colore la déesse? Lorsqu'ils s'étreignent, ils rencontrent la divinité, ils s'imprègnent de sa couleur. Alors un peu plus tôt, vous aviez 15 ans et vous découvrez une partie d'un tableau avec Judith. Et là, vous y voyez justement uniquement Eros et puis vous découvrez bien plus tard que Thanatos est là aussi.
Ben oui, j'ai l'impression que finalement c'est toujours un peu... c'est affreux ce que...
Parce que c'est terrible, c'est drôle en même temps.
Oui, oui, j'espère, parce qu'en tous les cas, pour moi, c'est drôle. Mais ce que j'aime dans la peinture, c'est un peu toujours la même chose, comme quoi finalement j'ai un goût bien précis. Et de fait, c'est vrai qu'à 15 ans, enfermé au pensionnat militaire de la Flèche, ça c'est une autre de mes aventures que je raconte dans La solitude Caravage, c'est le début de mon goût pour le Caravage, c'est que j'ai eu une passion iconophile, on dirait ça, je crois, dans ces cas-là. Enfin, j'ai une passion pour une image. Une toute petite image en noir et blanc en plus, vous vous rendez compte, enfin pour de la peinture, franchement c'était moche. Dans un livre un peu mal foutu, ce genre de livre, l'histoire de la peinture, livre de vulgarisation de la peinture italienne. Et donc dans les années 80, quand j'avais 15 ans, où je souffrais dans ce pensionnat militaire, j'allais à la bibliothèque de section, comme on disait, feuilleter ce petit livre. Et je revenais sans cesse tous les soirs à ce détail, ce portrait, vraiment tout petit, enfin je ne saurais même pas, quelques centimètres, où il y avait un très beau visage d'une femme aux cheveux clairs, bouclés, avec une boucle d'oreille en forme de perle, on aurait dit une larme, surmontée d'un petit papillon de velours noir. Ça me faisait vibrer. Enfin, et j'avais eu un désir très précis pour ça, son lobe d'oreille. Mais il y avait autre chose qui me plaisait, enfin, c'était un froncement, un double froncement. Elle avait une gorge, comme dit Baudelaire, très attrayante, surtout pour un jeune homme comme moi. Mais son corsage était froncé, était tiré, vous voyez, gonflé en fait par un lacet. Et ça correspondait, alors on voyait bien, parce que il y avait son visage et son buste, et c'était coupé. Et on voyait bien un peu d'humidité, disons, il y avait une tache un peu de, comme ça sur son corsage, comme si elle était en train de faire un effort et qu'elle suait, en fait, on voyait de la sueur. Et c'était corroboré par l'autre froncement qui était celui de ses sourcils. Donc ce beau visage, qui me semblait assez pâle, était travaillé par quelque chose qui semblait l'inquiéter. Elle était au travail, enfin, elle faisait un effort et ses sourcils étaient froncés et elle avait quelques rides d'effort sur le front. Bon, j'étais tombé amoureux de cette femme. Voilà. C'était d'autant plus bizarre que donc elle n'était qu'une petite image. Et à force, je me souviens très bien que c'était un de ces livres qu'on pouvait pas emprunter, vous voyez, c'était les usuels, comme on dit. Et donc je pouvais pas l'avoir avec moi, enfin, ni au dortoir, ni rien. Et puis au premier jour des vacances, à la Toussaint, puisqu'on ne voyait pas ses parents en dehors des vacances scolaires, je me suis dit, c'est pas possible, je vais passer... Non, je crois que c'était à Noël, je sais plus. Enfin, je vais passer 2 semaines sans la voir, je sais pas comment je vais faire, puis je savais pas... Et donc la veille du départ en vacances, je suis allé, bravant ma timidité, je suis allé dans cette bibliothèque de section avec un cutter... Et puis, en dissimulant mon geste, j'ai coupé la page, j'ai coupé le détail. Je suis parti avec ce petit médaillon que j'ai porté sur moi longtemps. Je le décris dans La solitude Caravage. C'était la première femme, si je puis dire. Et 15 ans plus tard, mes aventures, les aventures d'Yannick Edelman. 15 ans plus tard, j'avais 30 ans, j'étais professeur de français en banlieue parisienne. Et comme beaucoup de professeurs, comme beaucoup de Français, je vais en Italie aux vacances de Pâques. Et me voilà à Rome. Entre-temps, je m'étais mis à vivre avec une femme qui ressemblait, comme c'est étrange, à cette jeune femme. Des cheveux plutôt clairs, légèrement ondulés, visage très pâle. Et je ne pense pas qu'elle soit allée jusqu'à porter des petites perles avec un papillon noir, ni que je lui ai demandé de le faire. Mais voilà, il se trouve qu'effectivement, elle avait à voir. Et nous voilà tous les deux au Palazzo Barberini, à Rome, 15 ans après ce que je viens de vous dire. Là. Et voilà que je tombe, nez à nez, dans un immense tableau, moi qui étais habitué à ce petit détail. Je tombe sur elle, sur cette femme que j'aimais passionnément en tant qu'image. Et non seulement elle était en couleur, non seulement elle était majestueuse, merveilleuse, non seulement je la retrouvais enfin, et je voyais son nom, je voyais que c'était peint par le Caravage, c'était Judith, un personnage biblique, mais surtout je me suis mis à comprendre, j'ai pas mis longtemps à comprendre ce qu'elle faisait, pourquoi elle fronçait les sourcils, pourquoi elle avait l'air si sévère, si travaillée par une activité qui semblait difficile à accomplir. C'est que là, le tableau était en entier, et au bout de ses bras, elle tenait un sabre, et au bout de ce sabre, il y avait la tête du général Holoferne. Elle était en train de décapiter Holoferne. Donc c'était l'un des tableaux les plus célèbres au monde, par l'un des peintres les plus célèbres, le Caravage, c'est Judith décapitant Holoferne. Et donc l'objet même de mon désir, celui qui a décidé de toute ma sexualité, si je puis dire, au moins de mon choix électif dans mes amours, c'était une femme qui était en train de décapiter un homme. Et donc, évidemment, la jeune femme qui s'est, non pas reconnue, mais qui a vu, je lui avais abondamment parlé de ce détail, de cette tête. Et elle était sans doute peut-être un peu flattée aussi de lui ressembler ou d'imaginer que je la voyais. Là, elle a un peu changé d'avis, mais surtout, comme c'était une femme intelligente, elle a tout de suite vu que l'homme qui était décapité par cette femme, c'était moi. Donc, vous voyez, la peinture... C'est quand même...
Très agissant.
Très agissant. Et c'est... comment dire ça? Ça a lieu dans la vie réelle des gens qui regardent. Enfin voilà, c'est pas... Moi, je suis pas un collectionneur. J'amoncelle chez moi les livres et les reproductions, mais tout ça, j'aime que ça serve dans ma vie, si je puis dire. C'est pas que ce soit utile, mais l'aventure est partout, en fait. Dans ce que nous font les livres, ce que nous font les tableaux, ce que ça dit sur nous... Voilà, c'est un peu pour ça que j'ai appelé donc le alors ça c'était le Caravage, mais c'est aussi pour ça que j'ai appelé ce petit livre sur la peinture Le désir comme aventure, parce que ce sont deux choses qui n'ont pas de fin en fait.
Juste après la révélation de Rome et ma rupture avec la fille au visage d'ange, à cette époque où j'ai commencé à me nourrir de peinture, où ces étincelles colorées n'ont plus cessé de me parvenir, il m'est apparu comme une évidence que celle-ci portait en elle la mémoire et le désir d'une scène aphrodisiaque. En regardant un tableau, même le plus tourmenté des Caravages, j'apercevais dans ses pigments la teinture du linge d'Aphrodite. Je n'avais aucun mal à déceler sous la tempête du clair-obscur et les enroulements dramatiques de l'ombre, l'empreinte du safran, de la jacinthe, de la violette et de la rose. Il suffisait parfois d'une minuscule tache dans la nuit pour que cette poudre rouge et bleue, concassée dans la matière noire, se mette à reluire dans les tableaux de Caravage et m'indique la prairie, les miroitements d'une grappe de raisin, le pan large et serein d'un manteau évangélique, le sourire éclatant d'un jeune homme nu qui enlace un bélier, la jambe d'un cheval qui évite de piétiner son cavalier désarçonné, un étrange reflet blanc dans le miroir de Madeleine, et cette eau lourde et voilée qui baigne les yeux de Salomé se détournant avec tristesse de la tête du Baptiste qu'elle a fait couper. Autrement dit, je voyais partout de l'amour. Fût-elle vouée à figurer des horreurs, la peinture, depuis sa poudre, transmettait à mes yeux quelque chose de plus décisif qui s'ancrait dans le jardin d'Aphrodite. Et peu m'importait à cette époque la nature de cet amour, qu'il fût païen ou catholique, trivial ou gorgé d'une pureté qui vous tire des larmes, à travers ces éblouissements de rouge ou la pensivité discrète de ses lueurs, il me disait que la peinture voit plus loin que notre écrasement dans ce mauvais rêve qu'on nomme l'humanité. Il me chuchotait que le monde peint a partie liée au royaume et qu'en un sens, il est lui-même le royaume, même sous la forme d'une pauvre goutte, d'une flamme de lait piquée à l'oreille d'une femme qui accomplit un geste terrible. La lumière fait signe. Voilà ce que me disait le Caravage, ou Rembrandt, ou le Titien. La lumière dont vous cueillez des éclats dans la matière de ces rectangles où des corps vibrent et se déchirent nous indique la possibilité du jardin, de la prairie amoureuse. Elle vous rappelle que, en dépit de la pesanteur qui nous enfonce, le monde se raconte depuis une promesse qui l'illumine en secret. La perle de Judith a été la goutte qui allume pour moi l'esprit, et je suis loin d'en avoir fini avec sa nacre. Depuis 35 ans, brille en elle ce qui me tient à cœur. Yannick Hennel, La solitude Caravage. C'était Yannick Hennel pour la deuxième partie d'une émission consacrée à son livre « Notre solitude ». On revenait aussi sur la solitude Caravage avec aussi un écart sur un petit texte qu'il vient de sortir consacré à Eugène Delacroix. Les deux parties de cette émission sont bien sûr disponibles sur Ovio, et cela dès ce soir et pour un an.
Retrouvez Par Ouï Dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.